Le journal, Hélène Roussel.
Bonjour et bienvenue dans le 13h de France Inter. Il y a le feu au lac, conclusion du tout premier rapport sur les océans, signé des experts du GIEC, les océans, leurs souffrances et les conséquences. Cyclones, inondations, des villes comme Shanghai ou New York menacées. Un rapport comme une sirène hurlante. Toutes les précisions avec Sandy Dauphin au début du journal. Et c'est aussi le sujet évidemment de la Terre au carré tout à l'heure. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Hélène. Avec donc ce rapport qui passe en revue les effets catastrophiques du réchauffement climatique, et ça n'est vraiment pas rassurant. On en parlera avec mon invité, le climatologue Laurent Bopp, tout à l'heure.
Avec vos questions au 01 45 24 7000, rendez-vous tout à l'heure à 13h30, Mathieu Vidard. Dans ce journal, nous revenons aussi sur la réforme de l'audiovisuel public, celle de l'assurance chômage, celle encore plus ancienne des régions. Fusionner, ce n'était peut-être pas la bonne idée. La réforme n'a pas permis de faire des économies, c'est même tout le contraire. Rapport cinglant de la Cour des comptes, on verra ce qu'en pense notre invité Hervé Morin, patron de la région Normandie et de l'Association des régions de France. Nous irons aussi à Londres, les députés à nouveau en session depuis midi et demi, le Parlement n'est plus suspendu, décision de la Cour suprême hier. Antoine Gignot, vous êtes sur place, la session s'annonce déjà bien agitée.
Oui, Boris Johnson est rentré d'urgence de New York, le Premier ministre parlera dans l'après-midi, mais les questions ont déjà commencé sur le mode très agressif.
On va tout à l'heure, Antoine Gignot, et puis aussi ces amateurs de VTT qui sont devenus des cibles, les sentiers, un peu partout en France, piéger un vrai danger.
Chaque année, on a une dizaine de signalements qui remontent. Maintenant, je vous avoue que ça, c'est inédit. On observe une escalade pour faire très mal, voire tuer.
Mercredi, c'est aussi le jour des sorties ciné. Eva Bétan et son coup de cœur de la semaine, ce sera à la fin du journal. Le 13h, vous avez le menu, c'est parti.
France Inter.
Les océans à bout de souffle, fonte des glaces, canicules marines, submersions, cyclones toujours plus puissants. Le rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, présenté il y a tout juste 2 heures à Monaco. C'est sa première étude consacrée uniquement aux océans, aux glaciers et autres zones gelées. Nouvelle preuve des dégâts du réchauffement climatique, nouveau coup de pression aussi. Sandy Dauphin, bonjour.
Bonjour.
C'est un futur apocalyptique que nous prédisent les scientifiques. C'est simple, si rien n'est fait, la mer va monter d'un 1,10 m d'ici la fin du siècle, et hélas, ce n'est pas le seul voyant au rouge.
Oui, les océans sont en train de subir un bouleversement sans précédent, et pourtant ils nous rendent bien des services, Hélène. Ils produisent la moitié de notre oxygène, ils absorbent entre 20 et 30% de nos émissions de gaz à effet de serre, et ils ont également absorbé 90% du réchauffement climatique provoqué par l'homme. Mais voilà, à force, ils deviennent plus chauds, la température des océans a plus que doublé depuis 1993, plus acide et moins riche en oxygène, avec des conséquences sur la biodiversité, bien sûr, mais par ricochet aussi sur les humains. L'autre chambardement majeur, c'est l'augmentation du niveau de la mer. C'est pire que prévu, vous le disiez. À la fin du siècle, si rien n'est fait pour réduire drastiquement les émissions de CO2, la montée des eaux atteindra en moyenne 1,10 m. Principale explication, la fonte des glaces. La banquise de l'Arctique, on le voit en ce moment, est réduite à peau de chagrin. Dans un monde à plus de 2 degrés, elle sera complètement libre de glace en septembre, une fois tous les 3 ans. À cela s'ajoute la débâcle des calottes glaciaires, la perte de masse du Groenland a doublé sur les 2 dernières décennies, celle de l'Antarctique a triplé, et presque partout dans le monde, les glaciers reculent. D'ici 2100, dit le rapport, les petits glaciers d'Europe centrale, par exemple, pourraient perdre 80% de leur masse. Et pour compléter ce tableau très sombre, eh bien, le dégel du permafrost, des sols gelés de Sibérie ou de l'Alaska, pourrait libérer des quantités astronomiques de carbone et de méthane, et ainsi aggraver la crise climatique.
Plus d'un milliard de personnes concernées par ce scénario, et pas seulement au Bangladesh, Sandy Dauphin, aussi à Shanghai ou encore à New York.
Oui, d'après ce rapport du GIEC, 1,4 milliard personnes sont directement concernées par les effets du réchauffement climatique sur les océans et les zones gelées. Danger, par exemple, pour les 680 millions de personnes qui vivent sur le littoral, vulnérables à la montée des eaux, mais aussi à la multiplication des phénomènes météo extrêmes comme les cyclones. Hélène Jacot-Descombes, co-auteure du rapport du GIEC, professeure à l'Université du Pacifique Sud.
Les événements extrêmes de niveau de la mer qui sont observés à l'heure actuelle une fois par siècle pourraient devenir plus fréquents, hein, une fois par dizaine d'années, voire dans certaines projections extrêmes une fois par an. Et donc ça pose un certain nombre de problèmes pour les gens qui vivent dans ces zones côtières, qui peuvent gérer des inondations importantes une fois par siècle, mais pour qui des inondations une fois par an pose beaucoup plus de problèmes au niveau de l'habitabilité des zones dans lesquelles ils vivent.
Ce rapport sonne l'alerte une fois de plus, mais surtout il donne des outils aux décideurs pour savoir exactement où et comment protéger au mieux les populations et les aider à s'adapter.
Et le GIEC nous dit aussi qu'il va falloir tripler les ambitions des pays pour limiter le réchauffement à 2 degrés. Pas gagné quand on voit que le sommet climat de lundi à New York a encore une fois accouché d'une souris. Merci Sandy Dauphin pour l'explication et rendez-vous donc à 13h30 dans la Terre au carré avec Mathieu Vidard qui reviendra sur ce rapport. La question migratoire, sans tabou pour Emmanuel Macron qui en a fait l'un des thèmes principaux de cette rentrée politique et qui enfonce un peu plus le clou. À 5 jours du débat à l'Assemblée nationale, le président s'est confié hier soir, juste avant de prendre son avion pour Paris après le sommet de l'ONU à New York. Il assume, la France ne peut pas accueillir tout le monde si elle veut accueillir bien. Du Michel Rocard dans le texte 30 ans après, Yael Gauze.
Oui, sans doute l'une des maximes politiques les plus célèbres. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, Michel Rocard ajoutera plus tard, mais elle doit en prendre sa part. 30 ans après, Emmanuel Macron actualise la formule.
La France ne peut pas accueillir tout le monde si elle veut accueillir bien. C'était l'engagement que j'avais pris à Orléans en juillet 2017 et qu'on n'a pas réussi à tenir.
Le président au micro de nos confrères d'Europe 1, juillet 2017, c'était la feuille de route pour la loi Asile-Immigration, avec cette distinction entre réfugiés politiques et immigration économique. Bilan non satisfaisant, dit l'Élysée. Alors il faut se poser toutes les questions, sans tabou, même sur l'AME.
Mais est-ce que l'aide médicale d'État a un panier de soins, comme on dit, qui correspond à tout ce qui est nécessaire? Ça, il faut l'évaluer. Il faut un débat pour regarder ce qu'on fait par rapport à nos voisins. Et est-ce qu'on rembourse à 100% tout ce qui est nécessaire d'être remboursé? Est-ce qu'il n'y a pas parfois un peu des excès?
De quoi sérieusement alimenter le débat, puisque la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, estimait avoir gagné son arbitrage pour sanctuariser l'AME. Emmanuel Macron, entre fermeté et humanité, il assume ce « et en même temps » appliqué à la politique migratoire.
Pour pouvoir accueillir tout le monde dignement, on ne doit pas être un pays qui est trop attractif. Je crois au vrai « en même temps » sur la politique migratoire aussi. Aujourd'hui, à défaut d'être dans le « en même temps », nous sommes bien souvent dans le ni-ni. On n'est ni humain ni efficace.
Un président soucieux de cadrer les choses avant le débat la semaine prochaine à l'Assemblée. Il s'agit, nous dit-on, d'objectiver le débat avec des faits, des chiffres et pas de l'idéologie. Depuis New York, Emmanuel Macron en parle calmement. À Paris, lundi, dans le chaudron de l'Assemblée, ce sera sans doute une autre histoire.
Et comme pour donner un peu plus le « là » avant les débats, lundi, entre les députés, Emmanuel Macron pose les jalons d'un bon coup de rabot sur l'aide médicale d'État. Ce système qui permet aux étrangers en situation irrégulière d'être pris en charge à 100% pour accueillir tout le monde dignement, on ne doit pas être un pays trop attractif. Ça a le mérite d'être clair. Alors pas question de supprimer l'AME, ce serait ridicule, le président coupe court. En revanche, il faut, dit-il, jauger les excès, évaluer son coût. Que représente aujourd'hui cette aide médicale d'État? Réponse avec vous, Fabien Cazot.
L'aide médicale d'État représente aujourd'hui un budget d'1 milliard d'euros. Elle bénéficie à 300 000 étrangers en situation irrégulière. C'est 4 fois plus qu'au moment de sa création en l'an 2000. Les grands chiffres sont connus. Pour autant, il reste encore beaucoup de zones d'ombre sur lesquelles les données manquent, notamment sur les nationalités des bénéficiaires du fait de l'interdiction en France de statistiques sur le sujet. Difficile dès lors de mesurer si l'aide médicale d'État produit véritablement un appel d'air sur l'immigration, comme l'estime ses détracteurs ou pas. Ce qu'on sait, c'est que l'essentiel de l'aide se concentre sur des pathologies très lourdes, potentiellement contagieuses, ce qui devient un enjeu de santé publique, et qu'il faut donc traiter quoi qu'il en coûte, estiment les parlementaires de la majorité qui travaillent sur ce sujet. Ils attendent désormais impatiemment que s'ouvre le chantier d'évaluation du dispositif annoncé par Emmanuel Macron ce matin et qui ne manquera pas d'alimenter le débat sur l'immigration qui se tiendra à l'Assemblée lundi prochain.
Diminuer toujours plus les dépenses, c'est vrai aussi pour l'assurance chômage. Et pour économiser 3,5 milliards d'euros d'ici deux ans, le gouvernement impose de nouvelles règles d'indemnisation dès le mois de janvier prochain. Baisse des cotisations, des droits retardés ou des durées d'indemnisation plus courtes. Selon une étude de l'UNEDIC présentée hier soir au syndicat, la moitié des futurs chômeurs sera lésée. Une réforme anti-jeune dénonce déjà la CGT. Laurent Kramer.
Avec cette réforme, il faudra travailler plus longtemps. 6 mois contre 4 aujourd'hui jusqu'ici pour ouvrir des droits à l'assurance chômage. La période de référence également pour le calcul des indemnités journalières est élargie de 24 à 28 mois d'après la CGT, mais aussi l'UNEDIC. Les personnes touchées par cette réforme seront beaucoup plus jeunes que la moyenne, souligne Denis Gravouille à la CGT.
Il y a plusieurs mesures qui sont particulièrement douloureuses pour les jeunes. C'est très clairement le changement de mode de calcul pour tous ceux qui n'arrivent pas à travailler en continu toute l'année, donc qui alternent des périodes de chômage avec des périodes de travail sur des contrats de plus en plus courts. Le gouvernement leur fait payer comme si c'était de leur faute, en disant vous coupez les vivres un jour sur deux, soi-disant ça va vous aider à retrouver du travail. Alors si jamais ils arrivent à passer le seuil d'ouverture de droit, ils vont se retrouver avec des allocations qui vont être considérablement baissées, donc on va faire beaucoup de dégâts en les excluant de l'assurance chômage particulièrement.
Même analyse à la CFDT, CGC ou encore à Force Ouvrière. Selon l'UNEDIC, 850 000 inscrits à Pôle emploi verront leur allocation baisser de plus de 20% en moyenne au mois d'avril prochain. Le principe des droits rechargeables est également écrasé par cette réforme, dénoncent les syndicats. Le seuil jusqu'ici nécessaire pour recharger ses droits à l'assurance chômage passe ainsi de 150 à 910 heures de travail pour espérer conserver ses droits.
Laurent Kramer, la CGT qui compte bien attaquer ce décret devant le Conseil d'État dans les prochains jours. Autre réforme avec son bilan cette fois-ci, la fusion des régions de 22 à 13, réforme de François Hollande à l'époque présentée comme un moyen de faire de grandes économies, réduire le nombre de régions et les dépenses avec, c'était le but, mais visiblement c'est raté. Réforme bâclée, constat d'échec 3 ans plus tard, la Cour des comptes est sans pitié dans son rapport. Plus les régions sont devenues grandes, plus les dépenses sont augmentées. Bonjour Hervé Morin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans le 13h de France Inter. Vous êtes le président de la région Normandie, président de l'Association des régions de France. D'abord, ce sont ces dépenses qui augmentent, nous dit la Cour des comptes, 50 millions d'euros par an de plus qu'avant la réforme. Comment est-ce que vous l'expliquez ?
D'abord, il faut savoir de quoi on parle. Quand on parle de dépenses de fonctionnement, pour nos compatriotes, on parle de salaire et de voiture, pour faire simple. En vérité, nos dépenses de fonctionnement, c'est ce qui permet à nos compatriotes de voir la formation des demandeurs d'emploi, le financement des lycées, la politique agricole, la politique en faveur du sport, la culture. Tout ça, ce sont des dépenses de fonctionnement. Si on se limite aux dépenses de personnel, il faut pas se cacher les choses. Ce qui s'est passé en région, c'est ce qui se passe dans toutes les entreprises quand il y a des fusions. À chaque fois, il y a un premier temps avec des accroissements de dépenses qui sont liés notamment à l'harmonisation des salaires. Très clairement, on a été obligé, je prends ma région, la Haute-Normandie payait mieux ses collaborateurs que la Basse-Normandie. Quand j'ai fusionné, bien entendu, j'ai augmenté le régime indemnitaire des agents de Basse-Normandie.
Vous nivelez par le haut.
Par le haut. Mais vous connaissez-vous des Français qui accepteraient qu'on leur baisse leur salaire ? Pas vous et personne. Bien.
Vous voulez dire c'est un petit peu comme la fusion des communes, c'est vrai que dans un premier
attendez,
temps, c'est
deuxième
un peu...
temps, en même temps, si vous voulez, entre les périodes, le temps 1, où on a en effet une augmentation des dépenses, puis le temps 2, où on touche les fruits des rationalisations qu'on a mises en place, on va le voir, j'allais dire, à partir de cette année. Je vous prends des exemples simples pour que ça soit compréhensible. J'ai repassé tous les fonctionnaires de la région à 1607 heures. Il y en a beaucoup qui travaillaient beaucoup plus que ça, notamment chez les cadres. C'est bien entendu pour moi des économies à terme, puisque ça veut dire la possibilité de réduire un certain nombre de postes. Deuxièmement, j'ai mis en place un régime qui fait que désormais les agents des lycées sont sur la polycompétence. Donc en clair, ils peuvent faire deux métiers plutôt que d'être simplement spécialisés sur un métier. Donc lorsqu'il y a des remplacements à effectuer, je suis pas obligé de prendre des personnes supplémentaires. Rien que sur les ressources humaines, par les mesures que nous prenons, ça va être 7 à 8 millions d'euros d'économies. Donc beaucoup plus que ce que m'a coûté le régime indemnitaire. Et puis il y a des sujets sur lesquels on a fait de très grosses économies. Quand j'achète de l'énergie, j'ai désormais des marchés qui sont des marchés extrêmement importants. Quand j'achète des fournitures, bref, sur toute une série de sujets, on a su faire, selon les services, je parle de ma région, 7 à 10 millions d'euros d'économies.
On vous entend, Hervé Morin, la fusion des communes, c'est la même chose. Ça a mis un petit peu de temps, effectivement, à trouver les économies.
Ça viendra.
Par exemple, quand vous, dans les régions, vous maintenez d'anciens chefs-lieux, vous faites des assemblées dans d'anciens chefs-lieux, par exemple, Rouen et Caen. Ça fait faire des kilomètres et des kilomètres. C'est pas très rationnel.
Bah, honnêtement, ça coûte quoi ? J'ai à la fois l'hémicycle du conseil régional à Rouen et j'emprunte le siège de l'hémicycle de la communauté urbaine de Caen gratuitement. Pour moi, c'est vrai qu'on a des bilans carbone calamiteux.
Bah, Toulouse, Montpellier, en Occitanie, par exemple, c'est très loin.
Oui, mais et je crois que ni aucune des anciennes capitales n'aurait supporté l'idée que la région disparaisse de telle ou telle grande ville. Moi, j'avais 600 fonctionnaires à Rouen, 600 fonctionnaires à Caen. J'ai spécialisé les sites. Et donc, il y a des directions complètes à Rouen, des directions complètes à Caen. Mais personne n'aurait imaginé un seul instant que je construise des milliers de mètres carrés de bureaux pour déplacer des fonctionnaires qui d'ailleurs auraient très probablement refusé de passer d'une ville à l'autre.
Hervé Morin,
donc ça aurait coûté plus cher.
Vous dites que finalement ce rapport de la Cour des comptes est un peu alarmant comme ça quand on regarde le premier titre en nous disant que les dépenses ont beaucoup augmenté. Vous nous dites patience, ça va marcher, c'est une bonne
réforme.
Ouais,
et puis pardon de vous le dire, on a aujourd'hui des régions qui ont des capacités d'investissement nettement plus fortes. Prendre un exemple simple, ça fait 25 ans que le port du Havre attend la connexion entre la mer et le fleuve pour développer le trafic fluvial. On parlait de réchauffement climatique. Bien, ça fait 25 ans que l'État devait le faire. L'État ne fait toujours pas. Comme je suis aujourd'hui patron d'une région qui a des capacités d'investissement beaucoup plus importantes, dans les arbitrages que j'ai effectués, j'ai décidé de faire cet investissement de 150 millions d'euros que mon ancienne région Haute-Normandie n'aurait pas été capable de payer seule. Donc on a aujourd'hui des capacités pour porter des projets qui sont facteurs de développement, facteurs de valeur ajoutée, qui sont systémiques, où avant, souvent, on était plus dans le saupoudrage. Donc il y a beaucoup de vertus en tout cela. Quand j'abrite demain l'ensemble de la formation vétérinaire équine en Normandie avec un campus équin où il y aura tous les laboratoires, tous les centres de recherche, je favorise la spécialisation économique de ma région sur un secteur important.
Hervé Morin, rien à voir. Le débat qui arrive devant l'Assemblée lundi sur l'immigration et le président qui dit cette phrase, hein, la France ne peut pas accueillir tout le monde si elle veut accueillir bien. Une réaction courte.
Eh bien, je ne suis pas dans la majorité, mais il a raison. Je ne peux pas vous dire autre chose. Tout simplement, il y a un élément absolument clé, c'est que quand il a évoqué que son parti ne devait pas devenir un parti bourgeois, oui, quand on habite tout près de la maison de la radio, on n'a pas la même problématique que dans les quartiers populaires. Ça, c'est une évidence. Et puis, il y a un deuxième sujet qui inquiète les Français et qu'il faut dire, c'est que avec l'immigration, il y a la question de l'islam radical et de sa compatibilité avec les valeurs de la République. Et ça aussi, c'est un sujet qui inquiète les Français.
Hervé Morin, président de la région Normandie, président de l'Association des régions de France. Merci,
merci
à vous. Bonne journée.
France Inter, le journal de 13h, Hélène Roussel.
Rien à voir avec l'ORTF, assure le ministre de la Culture. L'ORTF, c'était le pouvoir directement qui gérait l'information. Ici, l'éditorial restera dans les entreprises, oui, mais pour le reste, ça y ressemble. La réforme de l'audiovisuel public est en route pour 2021. Franck Riester en explication de texte ce matin, avec une mère et ses quatre filles, France Média, la nouvelle holding, France Télé, Radio France, RFI, Lina, ses quatre enfants. La holding devra donc piloter, répartir le budget entre chacune, un PDG, quatre directeurs généraux, tous nommés par leur conseil d'administration. Alexandra Akoun, bonjour.
Bonjour.
Avec la redevance qui baisse d'un euro et les 200 millions d'euros d'économies dans tout l'audiovisuel public, toujours d'actualité et d'horizon pour 2022, on peut dire que du côté des salariés, la réforme n'est pas vraiment de nature à rassurer.
Ben non, pas vraiment, car pour beaucoup, holding signifie avant tout économie. Et qui dit économie dit répercussion sur l'éditorial, même si tel que présenté par Franck Riester, le super président de la future holding n'aura aucun pouvoir en la matière. Manuel Housset est élu CGT et secrétaire du CSE central de Radio France.
Il pourra faire des choix, par exemple, sur un grand événement sportif que France Télévisions va vouloir mettre en avant. Il fera des arbitrages qui risquent de défavoriser d'autres sociétés, comme nous, par exemple, en termes d'investissement ou de suivi éditorial. Tout est lié, les vases sont communicants, et effectivement, ça peut être un légitime motif d'inquiétude.
Autre inquiétude, que la holding ne soit qu'une première étape avant la constitution d'une entreprise unique, telle que l'a connue France Télévisions il y a quelques années. Valérie Emmanuel est secrétaire générale du SNJ Radio France.
Aujourd'hui, on nous dit que ce n'est pas le cas, que ce n'est pas du tout dans les projets, mais on sait que le projet va déjà bouger dans la discussion parlementaire. Et ensuite, quand tout le système sera mis en place, on sait aussi que le but non avoué est celui de faire des économies.
Du pur fantasme, rétorque Franck Riester.
Il y a une effectivement trajectoire financière qui demande un effort à l'audiovisuel public, comme on demande aux administrations et aux autres entreprises publiques, parce qu'on veut rétablir les comptes publics et baisser la pression fiscale. Mais il n'y a pas d'amplification de l'effort demandé avec la création de ce groupe public.
Un effort déjà colossal pour l'audiovisuel public, près de 200 millions d'euros, vous l'avez dit, d'ici 2022, dont 60 millions rien que pour Radio France.
Merci Alexandra Akoun et l'audiovisuel public, donc France Télé, Radio France, RFI, France 24, pardon, à nos confrères et Lina. France France 24 donc, que j'avais oublié. PMA et projet de loi bioéthique. Les députés entrent dans le vif aujourd'hui avec le vote notamment de l'article 1, la procréation médicalement assistée pour toutes. Le Sénat, de son côté, refuse de rester à l'écart. Son président Gérard Larcher annonce ce matin la création d'une commission spéciale mise en place le 15 octobre avec 37 membres et 4 sujets dominants parmi les plus sensibles. La GPA, la gestation pour autrui, la gratuité du don, la levée de l'anonymat sur les origines et le remboursement de la sécurité sociale en cas d'infertilité. Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics, annonce un chiffre ce matin sur France Inter. La réforme du prélèvement à la source de l'impôt a rapporté 2 milliards d'euros de plus dans les caisses de l'État. Un nouveau mode de collecte qui a permis d'économiser donc à Bercy 1 milliard de plus que prévu. Et puis le projet de loi de finances présenté officiellement demain, le journal Les Échos annonce ce matin 1 milliard d'euros de baisse d'impôts pour les entreprises, notamment grâce à une réduction de l'impôt sur les sociétés. En bref, encore hashtag, passe d'armes entre Christophe Castaner et Jean-Luc Mélenchon. Hier, en marge du défilé contre la réforme des retraites, le leader de la France insoumise a taxé les policiers de barbares. Inacceptable pour le ministre de l'Intérieur qui réclame sur Twitter ce matin des excuses auprès des forces de l'ordre, soutenues par le syndicat Alliance. Et illico, la réponse sur le même réseau de Jean-Luc Mélenchon. C'est le ministre qui doit des excuses aux Français, dit-il, pour toutes les victimes éborgnées et mutilées. Et puis, aéroport de Paris, qui ne doit pas être privatisé, c'est le référendum d'initiative partagée, le RIP. 822 000 soutiens à ce jour. C'est Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel sur France Inter ce matin, qui a fait le point. Au total, il faut 4 millions de soutiens pour que la procédure aboutisse. C'est un événement à Londres ce midi, le retour des députés à Westminster. La suspension du Parlement, jugée illégale par la Cour suprême hier, et la gifle pour Boris Johnson à un mois de la date du Brexit. Ce matin sur la BBC, le leader des travaillistes, Jeremy Corbyn, a donné le ton. Il accuse le Premier ministre d'abus de pouvoir et lui demande de faire ses excuses au peuple et à la reine. Antoine Gignot, vous êtes notre correspondant à Londres. Les députés ont donc repris le chemin de la Chambre des communes il y a une petite demi-heure maintenant et la session s'annonce tant historique que mouvementée, on peut dire.
Absolument, c'est le président du Parlement qui donne d'ailleurs le ton dès l'ouverture de séance avec cette phrase ironique.
Welcome back.
Bienvenue sur votre lieu de travail. Immédiatement, l'opposition accuse Boris Johnson, le Premier ministre, d'avoir menti à la reine pour suspendre le Parlement. Réponse de Geoffrey Cox, le procureur général. Le gouvernement accepte la décision de la Cour suprême, mais nous sommes déçus, c'est un problème complexe. Pas de question en revanche directement posée à Boris Johnson. Le protocole parlementaire oblige les députés à faire leur demande 3 jours à l'avance. Le Premier ministre prendra la parole tout à l'heure. Reste à savoir si l'opposition peut profiter de la séance pour déclencher une motion de défiance. Plusieurs dizaines d'élus pro-européens plaident déjà pour un gouvernement provisoire avec des noms qui circulent. À droite, Ken Clark, le doyen des conservateurs, fervent opposant au Brexit. À gauche, Margaret Beckett, ancienne adjointe du Parti travailliste.
Antoine Gignot en direct de Londres pour France Inter. Après l'Inde, voici le Massachusetts, premier État américain à interdire la vente de toutes les cigarettes électroniques. Le Massachusetts fait une interdiction temporaire de 4 mois, le temps de comprendre d'où viennent toutes ces maladies pulmonaires. 530 cas déclarés et 7 morts dans tout le pays. L'Algérie tourne une page de plus. Le frère de l'ancien président Bouteflika, condamné ce matin par un tribunal militaire à 15 ans de prison. Saïd Bouteflika, accusé d'atteinte à l'autorité de l'armée et de complot contre l'autorité de l'État. Laïla Berato, correspondance.
Il a fallu moins de 48 heures au tribunal pour écouter les prévenus et rendre son verdict. Pour les juges du tribunal militaire de Blida, le frère du président, les anciens hommes forts de l'armée et Louisa Hanoun, la chef du Parti des Travailleurs, se sont bien réunis dans une villa pour évoquer une transition politique. À l'époque, les manifestations du vendredi rassemblent des centaines de milliers de personnes dans tout le pays et le chef d'état-major demande que l'on destitue le président. Mais selon les médias algériens, ce qu'évoquent Saïd Bouteflika et les anciens chefs du renseignement, c'est une solution sans Ahmed Gaït Salah. Désormais homme fort du pays, le chef d'état-major s'en prend régulièrement dans ses discours à ceux qu'il appelle la bande. Il avait promis de les neutraliser. Ils sont condamnés à 15 ans de prison et ils ont 10 jours pour faire appel. À Alger, Leïla Berato, RFI pour France Inter.
Mais qui veut la peau des vététistes un peu partout sur les chemins de randonnée, les amateurs de VTT se retrouvent à faire du gymkhana entre tessons de bouteilles ou câbles tendus. Et ça devient de plus en plus dangereux. Hugo Charpentier.
Il y a en Isère ce vététiste stoppé net par un fil tendu à hauteur de visage. Ou encore, dans les Vosges, cette rando entre copains, sur son vélo, Sergio découvre alors un pieu planté dans le sol.
En fait, on a pris une piste sauvage. Il y a des grosses pierres avec un espèce de seau. On s'est rendu compte que juste sous le seau, il y avait ce pieu, ce fameux pieu planté dans la terre. C'est vrai que ça impressionne.
Après un signalement effectué à la gendarmerie, ce vététiste se tourne vers la fondation Mountain Bike, une association nationale qui défend les cyclistes.
Chaque année, on a une dizaine de signalements qui remontent.
Julien Rebuffet, l'un des fondateurs de cet assaut.
Maintenant, je vous avoue que ça, c'est inédit. On observe une escalade pour faire très mal, voire tuer.
Mais le problème, c'est que les poseurs de pièges sont rarement interpellés.
Tout le problème, il est effectivement d'arriver à faire un flagrant délit. Et les personnes mal intentionnées qui font ça, évidemment, le font de manière discrète.
Il est difficile de cerner leur profil. Un propriétaire de chalet, fatigué de voir des vététistes traverser son terrain, des agriculteurs ou des chasseurs qui s'inquiètent que le gibier soit dérangé. Ceux qui pourraient en vouloir aux vététistes sont nombreux. Julien Rebuffet et son équipe font donc beaucoup de pédagogie.
Quand on se retrouve avec les autres usagers autour de la table, les éleveurs, les chasseurs, l'ONF, les gestionnaires, ça responsabilise tout le monde. J'ose espérer que ça les incite à plus recommencer en tout cas.
Un dialogue long et compliqué, mais nécessaire pour éviter les drames.
Et ça glisse en attendant sur le terrain judiciaire. Champé, petit village de Meurthe-et-Moselle, va porter plainte contre X. Allez, c'est mercredi, c'est ciné, c'est votre chronique. Eva Bétan, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Vous nous parlez ce midi de Port Authority, du nom de cette gare routière à New York. La réalisatrice Danielle Leskovitz raconte une histoire d'amour entre un homme et une trans, un film que vous avez trouvé, Eva, très subtil.
Oui, parce qu'elle va prendre l'histoire de cette rencontre d'une manière naturelle. C'est une histoire d'amour classique face à la différence. Elle fait pas « waouh, vous allez voir ce que vous allez voir ». Et il y a aussi le tout sous-texte que ce film dit. Dans une gare, c'est là où on voit les gens qui sont exclus, les marginalités. Ce jeune homme, il débarque du train, il va se retrouvé à la rue. Il voit cette jeune femme et ce qui est intéressant, c'est que cette femme, ce groupe qu'il voit, elle fait partie d'un groupe de trans, d'homosexuels, il la voit, il est attiré par elle, mais il voit aussi le groupe qu'il représente. Ils sont attirés par la danse. Ils ont en commun une forme de danse particulière où ils participent à des compétitions. Et ils nous montrent la précarité de ces gens qui sont trans ou gays et ils nous montrent aussi leur force. C'est-à-dire que l'idée d'un groupe est une idée qu'on connaît. Mais là, c'est l'idée d'une famille. Ils disent « ma maison, ma famille ». Et on voit comment une microculture crée une forme de solidarité. Écoutez la réalisatrice Danielle Leskovitz.
Beaucoup de ces jeunes, parce qu'ils étaient queer ou gays, ont été rejetés par leur famille. Mais tous les êtres humains ont besoin d'avoir des parents qui les aiment. C'est pourquoi cette culture a inventé une nouvelle manière de faire famille, qui n'est pas basée sur la génétique. Les relations entre les gens sont authentiques. Votre famille sera là pour vous. Il y a de l'humanité, du respect entre les gens.
Ce qui est très intéressant, schéma classique pour l'histoire d'amour et schéma non classique. D'habitude, si vous voulez, c'est la minorité qui veut s'intégrer à la majorité. Lui, il fait partie de la majorité, il est un blanc hétéro et il est fasciné par les valeurs de la minorité.
Porte autorité au cinéma cette semaine. Merci beaucoup Eva Bétan.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
Et c'est gris, c'est pluie, Sébastien Léas.
Une nouvelle perturbation pluvieuse aborde le pays par l'ouest, donnant un temps gris et humide cet après-midi, de la Bretagne au Berry et à l'Auvergne jusqu'au nord de l'Aquitaine. Au nord de la Loire, les pluies sont faibles, mais sur le Limousin, les pluies sont localement soutenues. Sur le reste du pays, ce sont les nuages qui l'emportent parfois assez largement et s'accompagnant même d'averses. Les averses sont surtout nombreuses au nord de la Seine et sur le nord-est, mais plutôt rares entre l'Orne et la région parisienne. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'après-midi est nettement plus clément, avec un soleil généreux, mais une ambiance bien ventée. L'Est Corse a aussi un temps ensoleillé alors que les nuages s'accumulent sur l'ouest de l'île. Les températures de cet après-midi sont comprises entre 17 et 21 degrés sur la majeure partie du pays, avec 23 à 29 degrés sur les régions méditerranéennes.